Bonjour tout le monde, ici Marjorie Théodore au micro. Merci d'être avec nous pour une autre belle émission de Vivement les femmes. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder le tabou qui entoure notre périnée, cette région du corps qui s'étend de l'anus aux parties génitales. Et on parle souvent également de plancher pelvien. Quand est-ce, entre amis, ose-t-on avouer avoir des pertes urinaires dérangeantes ou encore des douleurs lors des relations sexuelles? C'est quelque chose qu'on garde toujours dans notre intimité. Alors aujourd'hui, autour de la table, deux spécialistes nous incitent à cesser d'ignorer notre périnée et nous éclairent sur le sujet. Alors, il s'agit de Caroline Harbour, physiothérapeute en santé périnéale, et Brigitte Vaillancourt, professeur de yoga. Bonjour Caroline Harbour.
Bonjour.
Alors, bonjour Brigitte Vaillancourt.
Allô.
Et puis, ça fait plaisir parce que c'est la deuxième fois que je te reçois à l'émission Vivement les femmes. Alors, merci déjà pour cette belle générosité de temps pour nous instruire sur les divers sujets. Alors, bienvenue à toutes les deux à Vivement les femmes. Et ma première question serait pour toi, Caroline. Donc, Caroline Harbour, tu es physiothérapeute en
oui.
santé périnéale et autrice aussi
oui.
du livre « Habiter nos corps pour en finir avec la banalisation des douleurs des femmes ». Alors, livre publié aux éditions Cardinal en 2023.
Oui.
Donc, ça veut dire quelque chose de très, très frais, là. On est encore
oui,
en
oui, absolument,
2023.
Oui.
Alors, maintenant, j'aimerais ça déjà que tu nous parles, que tu nous dises c'est quoi le périnée? Parce que finalement, avant mon émission, moi, j'ai demandé un peu aux jeunes femmes s'ils savaient c'était quoi, mais plusieurs n'avaient aucune idée. Donc, alors déjà, en partant, c'est quoi le périnée?
Oui, bien, effectivement, c'est important de le situer et de le comprendre avant qu'on continue sur le sujet. Fait que le périnée, tu l'as quand même assez bien situé là, dans le corps, dans ton introduction tantôt. Donc, c'est une région du corps, c'est des muscles, mais c'est aussi des ligaments, des nerfs, des vaisseaux sanguins. C'est, dans le fond, toute la région du corps qui est comme au centre ou au creux du bassin, qui va soutenir ou entourer nos organes pelviens. Fait qu'au niveau de la vessie, au niveau du vagin ou du pénis, puis au niveau de l'anus.
OK. Donc, chez l'homme et comme chez la femme, donc c'est la région qu'on appelle périnée.
Oui, exact. Donc, c'est important de le dire aussi. Les
oui.
hommes aussi ont un périnée.
Oui, voilà,
ça,
oui.
c'est quelque chose qui est encore... On commence à le dire de plus en plus que les femmes en ont un, même si c'est encore un tabou, mais les hommes aussi. Puis, je pense que ce qui est important de souligner aussi, c'est que le périnée, au-delà d'être cette région du corps-là, au niveau physique, c'est aussi une partie du corps qui est de très, très près liée à notre système émotionnel
oui.
puis à notre santé psychologique.
C'est ça. On va en parler
ouais.
Plus loin d'ailleurs. Je continue avec toi, Caroline. Dans une entrevue que tu as accordée au journal La Presse, tu dis, et je te cite, « J'ai fait un bac en physio, mais il a fallu que je tombe enceinte pour savoir que j'avais un plancher pelvien. » Alors, comment ta grossesse t'a fait réaliser l'importance de cette partie du corps?
Ben dans le fond, quand je suis tombée enceinte, bon, ben disons, je savais que j'avais un plancher pelvien,
oui.
mais on m'avait pas vraiment appris grand-chose
tout
là-dessus dans tout un bac en physio. Puis, tu sais, c'était au début des années 2000, là, c'est pas il y a 50 ans. Là. On n'en avait pas parlé, on n'était jamais allé en détail, on n'était jamais allé parler de la fonction vraiment de ces muscles-là. Et puis là, ben, en tombant enceinte, j'ai compris que c'était important de comprendre ces
oui.
fonctions-là puis de comprendre les rôles du plancher pelvien. Donc, je me suis intéressée à ça. Puis, je me suis inscrite à la formation à l'Université de Montréal pour aller développer cette expertise-là. c'était en 2010-2011, puis c'était vraiment à ses tout débuts. Là. Moi, dans le fond, quand je me suis inscrite, j'étais dans la deuxième cohorte de personnes qu'on formait à ce diplôme-là. Là.
Ah, OK. Donc, alors, c'est quand même assez récent.
Exact.
Comme diplôme.
Oui.
OK, OK. Donc, je vais vers toi, Brigitte. Tu es prof de yoga et je sais que tu as deux enfants.
Mm-hmm.
Donc, puis pour toi, comment ça s'est passé, ces grossesses, par rapport au plancher pelvien?
Oui, ben effectivement, c'est vraiment à ma première grossesse là, que j'ai rencontré d'une manière très maladroite, là,
oui.
Je dirais, cette région du cœur, puis aussi rencontrer toutes sortes d'inconforts
mm-hmm.
autour de comment aller vers ça. C'est-à-dire que j'ai été tellement chanceuse parce que j'ai eu pour mes deux grossesses des suivis avec des sages-femmes.
OK.
Puis je pense que déjà là, au niveau de l'approche, c'est tellement différent. Puis je me rappelle de ma sage-femme, là, Catherine, je pense, puis elle, qui me disait de... parce que j'avais beaucoup, beaucoup de douleurs, puis
Mm-hmm.
de, tu sais, de... En fait, elle me conseillait de masser moi-même mon périnée
Oui.
ou que mon conjoint masse mon périnée. Mais en toute honnêteté, là, je ne savais même pas de quoi on parlait. Puis l'idée de me toucher cette région du corps me rendait mal à l'aise.
Oui.
Donc, je ne l'ai pas vraiment fait. Puis, je me souviens aussi, ben c'est un peu étrange de dire ça à la radio, mais... T'sais, quand en première grossesse, on cherche beaucoup de conseils là,
Oui.
En préparation à l'accouchement. Donc, je me rappelle de ma soeur qui m'avait dit « Quand tu vas pousser, il faut que tu pousses comme si tu faisais caca. »
Oui.
Puis, dans le fond, elle parlait de mon périnée, mais je
oui.
le savais pas. T'sais. Puis moi, j'ai retenu ça parce qu'elle a eu trois enfants, donc je me suis dit « Ok, c'est de quoi elle parle. » Puis, j'ai eu un accouchement super difficile et j'ai poussé pendant 6 heures.
Ah, wow.
Puis, pendant 6 heures, ben à la fin, je faisais n'importe quoi, mais je veux dire, je me concentrais au tout début, en tout cas vraiment sur cette région du corps. Puis, je suis convaincue que j'ai gardé des traces de cet accouchement-là et de cette manière de contracter qui n'était pas en connaissance de cause, qui n'était pas organique non plus. J'avais comme pas cette sensibilité-là. Puis, bon, mon enfant est né. Puis ça a bien été, mais j'étais amochée là, sur toute cette région-là de mon corps était meurtrie là, profondément. Puis j'ai bien récupéré, j'ai été chanceuse, j'ai été jeune, mais j'ai pas, j'ai jamais, tu sais, tout ce qu'on m'a dit après, tu sais, tu mets de la glace, puis après, ben tu fais des exercices Kegel, tu sais, mais...
Ouais,
c'est pas, je pense qu'à l'âge que j'ai maintenant, j'aurais un tout autre regard sur comment soigner cette partie-là de mon corps. Et je regrette un peu, ben, après, ça va, là, j'ai d'autres entrées vers mon corps, mais je pense que c'est une partie de mon corps qui aurait demandé beaucoup plus de soins et de présence et d'accompagnement. Puis ça, c'est un peu quelque chose que je regrette dans le sens que je trouve qu'on, l'émission ici, pourquoi on n'en parle pas assez, ou c'est un petit peu ça le sujet, comment on devrait en parler, pourquoi on est gêné, mais c'est vraiment important, tu sais, puis surtout comme femme, si on a des enfants, des accouchements par voie naturelle, tu sais, il y a plein de... Ouais, en tout cas, ça laisse des traces, tu sais, ça reste présent en nous, là.
Oui. D'accord. Tu nous as parlé ce que ça avait laissé comme trace, tes grossesses, justement, face au périnée. Caroline, est-ce que ça a aussi laissé des traces? Est-ce qu'il y a eu, si on peut parler comme ça, un traumatisme ou...
Oui, en fait, donc comme je disais, tu sais, quand je suis tombée enceinte de mon premier enfant, je suis allée... j'ai commencé ce chemin-là là, de développer cette expertise-là, mais ça s'est fait sur plusieurs années.
Oui.
Puis en fait, ça continue toujours de se faire, là. Puis le côté, l'aspect plus traumatiste, puis à quel point il y a une empreinte là, qui mm-hmm. reste dans le corps, ça, j'en ai vraiment pris pleinement conscience. À peu près 8 ans plus tard, on commence. Puis c'est toutes des choses là, qui sont très, très, très nouvelles là, oui. Au niveau de la recherche, au niveau de la compréhension mm-hmm. des choses. Puis j'étais dans un cours de formation continue sur la santé périnatale. Puis on parlait de traumatisme. Puis pendant ce cours-là, l'enseignante faisait un traitement spécial avec une autre participante. Mm-hmm. Puis moi, je me suis mise à pleurer là, de façon complètement inattendue. Je fais pas ça de façon régulière, oui, oui, là, oui. Pleurer dans un cours, ça m'était jamais arrivé. Puis c'est comme si ça m'a frappé l'évidence mm-hmm. là, mm-hmm. Du fait que je gardais un traumatisme de cette naissance-là, oui. qui c'est pourtant, je me suis toujours fait dire « ça a bien été
oui. ».
D'emblée, moi j'étais à l'hôpital avec une médecin que j'aimais beaucoup, mm-hmm. que j'aime encore à ce jour. Je pense qu'il n'y a personne dans toute mon histoire qui a... On en entend là, des histoires d'horreur. C'est pas oui. ça que j'ai vécu. C'était quelque chose de beaucoup plus subtil que ça, qui était vraiment plus une conséquence du système, je pense, mm-hmm. Que de la mauvaise volonté de quelqu'un. Là, mais oui. à quel point j'ai perdu le contrôle sur mm-hmm. tout ça. Puis ça, mm-hmm. finalement, c'est un moment qui m'a pas du tout appartenu.
Oui.
Alors que ça devrait nous appartenir. Mm-hmm. C'est les personnes qui nous accompagnent devraient... nous accompagner, justement, et oui. non faire ça à notre place. Ça fait une oui. immense différence sur la façon dont le corps l'approche mm-hmm. puis l'aborde. Mm-hmm.
Puis je vous entends parler parce que ben, vous êtes les deux beaucoup plus jeunes que moi, mais je me remets, moi, à l'époque où j'avais mes enfants et tout. C'était tabou, mais ce que je me disais aussi, je dis, jamais j'en avais entendu parler et les gynécologues ne nous disent pas non plus ceux qui ou celles qui nous suivent pour l'accouchement, on nous dit pas, on nous parle pas de cette partie-là. Et parfois, il y a des situations qui arrivent qu'on aurait dû savoir un peu, lorsqu'on parle aussi du déchirement, lorsque mm-hmm. on est déchiré, ensuite on est cousu. Donc ça, tout ça, ça fait très, très mal après, mais on n'en a pas parlé. Mais pourquoi, jusqu'à présent, il semble que même les gynécologues n'en parlent pas?
Parce qu'ils apprennent pas à le faire.
C'est ça.
Ils sont pas formés pour ça. Mm-hmm. Historiquement, la médecine, c'est une histoire d'homme. Toute la santé a toujours été construite puis mise en place à travers le prisme de l'anatomie masculine. Mm-hmm. Puis là, évidemment, ben, t'sais, dans les années les plus récentes, on fait du chemin là, pour essayer d'équilibrer ça, mais il y a des siècles de retard à rattraper, donc on est encore en retard, même ouais. s'il se fait beaucoup d'efforts, on est encore très, très en retard. La santé de la femme n'a mm-hmm. jamais été considérée suffisamment ouais. dans les dernières décennies pour qu'on développe... au niveau médical, une expertise par rapport à ça.
Oui, oui. Puis Caroline, vous êtes physiothérapeute. Pourquoi les femmes, quand elles vous consultent, ce serait quoi la première raison? Quelles sont les raisons?
Je dirais, bon, on vient souvent voir en physio, moi ou mes collègues, là, tu sais, si je me fie à ce que, comme communauté de physio-périnéale, on voit, tu sais, on va voir de plus en plus des femmes qui ont des fuites urinaires. C'est, oui. Ça, c'est un des aspects qui est de moins en moins tabou, mm-hmm. quoique c'est vraiment pas pour tout le monde, ça l'est encore beaucoup pour beaucoup de personnes. Sinon, des douleurs, ou sinon aussi, il y a encore beaucoup de femmes qui vont venir... sans même savoir exactement pourquoi, mm-hmm. qu'ils vont venir parce qu'ils se sont fait dire que c'était peut-être une bonne idée ou parce qu'ils ont eu un enfant, mais ils ne savent pas trop qu'est-ce qu'ils font là. Puis finalement, à force de parler, on se rend compte que la douleur, ben oui, il y en a eu, mais là, je vais leur parler, puis ils vont me dire, ah, ben tu sais, j'ai toujours été comme ça, donc mm-hmm. c'est normal. Puis là, ils vont d'emblée même des fois me dire, ah, ben non, moi, j'ai pas de fuite. Puis là, je vais leur dire, OK, ben même pas, tu sais, avec un atchoum des oui, fois, oui. ou des fois dans... Puis là, ils vont... Ah oui, ben là, des petites gouttes comme ça, mais ça, c'est normal. Mm-hmm. Ils vont me dire, ah ben j'ai mal au dos, mais c'est normal, je suis enceinte. Donc même entre femmes, c'est quelque chose qui est très normalisé puis banalisé parce que ça vient de la société. Fait que c'est pas juste une question non plus de dynamique homme-femme, même mm-hmm. si ça c'est une des choses qui contribue, mais c'est présent à l'intérieur d'un cercle de femmes aussi.
Oui, oui. Puis lorsqu'on parle d'incontinence urinaire, il y a des fois un peu comme ce que tu viens de dire, Caroline, c'est il y a les petites gouttes, mais il y a aussi l'incontinence. C'est quoi la fréquence? Est-ce que ça peut devenir sévère? Est-ce que au fait que finalement que le plancher pelvien n'est pas assez musclé? J'ai peut-être pas les bons mots, donc
Dans le fond, qu'on parle d'une petite goutte ou de perte plus importante, on parle d'incontinence urinaire.
OK.
Donc, une incontinence urinaire, c'est à partir du moment où il y a un petit peu d'urine qui sort sans que ce soit voulu.
Oui.
On parle d'incontinence urinaire. Il peut y avoir plein de raisons mm-hmm. de vivre d'incontinence urinaire. C'est commun,
mm-hmm.
Mais ça n'en fait pas quelque chose de normal. En général, il y a quelque chose qui explique le fait qu'il y a des fuites.
Mm-hmm.
Puis ça peut être une faiblesse du plancher pelvien, mais l'erreur qu'on fait le plus souvent, c'est de penser que parce que c'est faible, il faut contracter tout le temps plus fort. Donc, ce qu'on voit beaucoup, beaucoup en physio périnéale, finalement, c'est des problèmes de tension parce que souvent la faiblesse est due à une tension plus que à cette espèce de mythe-là que le plancher pelvien ou le vagin est trop lax après un accouchement, par exemple.
Mm-hmm.
En réalité, c'est assez rarement le cas.
Mm-hmm. OK. Puis, on est quand même dans une émission pour femmes, mais pour l'homme, c'est aussi un peu la même chose. Je veux dire, on parle d'incontinence aussi. Est-ce que les phénomènes, mais les résultats sont pareils? Les causes, je veux dire, sont pareilles?
Les causes, non.
OK.
Non. Ça va finir par être quand même un certain déséquilibre musculaire, puis de tension, puis de faiblesse, puis tout ça. Mais les hommes vont consulter beaucoup autour d'une prostatectomie.
Oui.
Donc, les hommes qui ont dû subir une intervention pour ça, à différents... Tu sais, il y a différentes intensités de chirurgie, disons, puis de symptômes. Donc, ça peut avoir un impact sur l'incontinence. Mm-hmm. Puis sinon, à tous les âges, des hommes qui vont avoir des douleurs parce qu'ils ont des tensions, entre autres, là, ou pour d'autres raisons, mais...
Mm-hmm.
Des fuites ou des douleurs, là.
OK, OK. Brigitte, t'es prof de yoga, donc dans la pratique du yoga, ça aide, je crois. Il y a des mouvements, donc j'aimerais ça que tu nous en parles.
Oui, bien, puis c'est sûr que moi, je suis pas thérapeute, donc je suis même pas spécialiste.
Oui, c'est ça, exactement.
J'ai un chemin, tu sais, disons que j'ai un chemin, puis aussi une curiosité. Une présence là, qui est portée à cette région du corps dans ma pratique personnelle puis dans mes enseignements. Mais tu sais, c'est important de le dire aussi parce que prof de yoga, c'est un autre apprentissage. C'est d'autres sortes c'est pas de l'intervention, c'est pas... C'est vraiment un autre contexte. Mais il y a quand même... C'est aussi une occasion de porter attention puis de s'intéresser, tu sais, que ce soit ensemble ou seul. Puis, dans le fond, je pense que, tu sais, après mes deux accouchements, il y a eu un temps, puis je suis revenue à cette région du corps à travers des douleurs chroniques au niveau lombaire, chez moi, là, personnellement.
Ouais.
Donc, tu sais, des douleurs chroniques qui, finalement, tu sais, qui s'amplifient, puis j'ai investigué beaucoup, puis c'est tout attaché, tu sais, puis... de prendre conscience aussi de tu sais, un peu de notion de comment on ressent ça dans le corps, puis l'espèce des douleurs qui sont diffuses, c'est des douleurs plus névralgiques, donc ça vient interférer, là, tu sais, proche de l'os de la fesse, autour de la hanche, mais aussi à l'intérieur du bassin, tu sais, au périnée, puis au plancher pelvien, puis à l'intérieur, là, tu sais, tu sens, là, tout d'un coup, ben il y a toutes sortes de couches, là, il y a une profondeur, là, c'est complexe, tout ça, puis d'apprendre, finalement, tu sais, à la fois à mieux soutenir, tu sais, à mieux stabiliser le bassin, à l'aide de certains mouvements, ben là, pour moi, c'était révolutionnaire, tu sais, mais aussi apprendre à détendre à travers une attention qui est portée à la respiration, puis on parle, tu sais, le diaphragme pelvien, donc ça, c'est pas si connu, là, quand j'introduis ça dans ma pratique, dans mes cours, c'est toujours, mais peut-être vous sentez rien, puis c'est pas grave, tu sais, mm-hmm. comme on fait juste, tu sais, explorer, puis c'est très, très subtil, et pourtant, quand on connecte avec ça, ben je pense que c'est le fun, tu sais, ça ouvre un peu, là, les possibilités, mais aussi, tu sais, tout à l'heure, là, Karine parlait, tu sais, de la... du côté émotionnel, tu sais, puis il y a des sensibilités, là, qui sont stockées aussi, là, tu sais, des histoires dans nos bassins, tu sais, qu'est-ce qu'on porte?
On va reprendre, Brigitte, merci. Poursuis en parlant de cette incontinence urinaire. D'abord, est-ce que c'est un problème qui peut se régler? Mais avant d'aller vers Caroline qui va donner son point de vue au niveau de, comme en tant que physiothérapeute, toi, Brigitte, comme professeur de yoga, qu'est-ce que tu prends en compte pour justement aider des femmes qui auraient ce problème-là?
Ben, c'est sûr que c'est plus rare qu'on vienne vers moi avec cette question-là pointue.
Okay.
Le contexte se prête peut-être un peu moins. Mais néanmoins, récemment, j'ai ouvert un peu là, mes cours aux changements hormonaux, tu sais, avec des cours d'un groupe de femmes là, sur la péri puis la ménopause. Et ça a été, c'est formidable. Fait qu'on était un petit groupe de femmes beaucoup plus intime. Puis dès là, tu sais, le fait que le contexte est nommé puis qu'on est là pour ça, ben il y a aussi un espace de confiance, tu sais, quelque chose qui peut on peut mieux s'abandonner. Puis là, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis en fait, moi, dans mes... Je donne toutes sortes de cours d'enseignement, mais de yoga, mais plus encore plus des cours qui sont, on appelle ça des cours restaurateurs. Donc, c'est des pratiques qui sont super passives. Des fois, c'est d'endormir les gens. Mais des fois, j'ai l'impression que c'est des adultes qui font la sieste. Mais c'est des cours où on va utiliser beaucoup d'accessoires, puis vraiment porter attention au système nerveux, mais juste porter attention parce qu'on se retrouve un peu immobile, puis on dégage de l'espace pour certaines régions du corps. Donc, dans ce cours-là sur péri puis ménopause, bien, il y avait beaucoup d'attention autour du bassin.
Oui.
Puis, dans le fond, mon approche, ça a été vraiment juste de placer les femmes, puis de rester, de demeurer. Mm-hmm. Des fois, il y avait un peu de mouvement, mais juste d'amener notre attention vers ça.
Ouais.
Puis, mine de rien, là, c'est comme une petite révolution.
Ouais.
Je sais pas comment dire. Puis, tu sais, plein de femmes qui sont très, très fortement incommodées par les symptômes, soudainement, mais d'une grande violence, comme un effet déstructurant majeur sur leur vie, dans toutes les sphères de leur vie. Mais aussi, c'est... Tu sais, j'ai envie de dire, il y a quelque chose aussi de l'ordre de, tu sais, notre société, tu sais, on n'est pas... C'est dur de porter attention.
Tout à fait, ben
tu sais, de s'arrêter puis de dire, qu'est-ce qui se passe, mon corps change. Parce qu'il y a tellement de... Tu sais, ça va vite, on travaille, on veut maintenir tout ce qu'on a construit, mais alors que c'est des changements majeurs, puis juste de s'arrêter dans un espace dédié à ça... Ben c'est vraiment intéressant ce que ça donne.
J'en doute pas. Parce que c'est la prise de conscience aussi à ce moment-là de son corps. Puis le yoga permet aussi cette prise de conscience de toutes les parties du corps, mais essentiellement dans le but de notre sujet. Caroline, en tant que physiothérapeute, est-ce que, c'est ça, il y a des exercices, est-ce qu'on peut arriver à dire que le problème peut être réglé?
Et la grande majorité du temps, oui.
OK.
Il y a des très bons taux de succès là, en physiothérapie pour des problèmes de fuite urinaire ou de douleur. Ça prend de la motivation, ça prend de la confiance, ça prend de la discipline quand même. C'est pas des traitements miraculeux, là. Puis, tu sais, pour faire du chemin sur ce que Brigitte dit depuis tantôt, ben c'est ça, ça demande de prendre du temps pour soi. Ça, c'est beaucoup un travail de prise de conscience, d'abord et avant tout. Apprendre à ressentir son plancher pelvien, le mouvement autour de ses hanches, de son bassin, tout ça, c'est vraiment, je le compare souvent à apprendre à jouer un instrument de musique. Mm-hmm. Donc, si on se mettait, si on n'avait jamais joué du piano puis qu'on se mettait à apprendre le piano demain matin, bien, probablement que nos doigts ne feraient pas exactement ce qu'on veut pour faire des gammes ou des mélodies. On aurait besoin de se concentrer, on aurait besoin de regarder, on aurait besoin de travailler régulièrement. C'est un peu la même chose au niveau de cette partie-là du corps qui a souvent été ignorée pendant des années, si ce n'est pas une vie entière.
Oui.
Donc, le travail à faire est souvent quand même important. Mais si on est prêt à le faire puis qu'on croit que ça peut s'améliorer, on a beaucoup de... On a beaucoup de résultats positifs là, avec ça. Là.
Et puis, alors, il s'agit d'exercices
Oui, bien, c'est ça. Ça va être des... Bien, concrètement, ça va varier d'une personne à une autre. Ouais. Là, c'est difficile d'y aller de façon très précise comme ça à la radio, mais on veut apprendre à contrôler la partie du corps. Donc, tu sais, souvent, au-delà, on a l'idée là, que... Faut renforcer, mais ça, c'est vraiment juste un aspect parmi plein d'autres. C'est vraiment pas ça uniquement qu'il faut garder. Il faut vraiment apprendre à ressentir le mouvement, à le percevoir. On peut pas le voir avec nos yeux, comme si on faisait des gammes au piano. Donc, il faut comme le voir de l'intérieur. Donc, c'est une pratique qui est souvent nouvelle, qui demande de s'arrêter, qui demande de prendre le temps, puis qui demande d'aborder notre corps d'une façon qu'on n'est pas habitué de le faire.
Ouais.
Donc, c'est ça. Moi, comme physio, je suis là pour les accompagner là-dedans, puis pour les guider. Puis, tu sais, je vais avoir une connaissance un peu plus aiguisée d'aller palper avec mes mains, aller ressentir ce qui se passe. Donc, aider les personnes à trouver ce qui se passe dans leur corps. Mm-hmm. Parce que des fois, tout seul, on est perdu. On sait comme pas par où commencer. Fait qu'on est là pour accompagner puis pour guider plus que pour... C'est ça. Si quelqu'un va mieux, c'est pas grâce à moi. Là, c'est juste... Moi, j'ai été là pour l'accompagner.
Pour l'accompagnement, oui.
Écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore.
Autour de la table avec moi, Caroline Arbour, physiothérapeute périnéale, et Brigitte Vaillancourt, prof de yoga. En tout début d'émission, on a parlé d'émotions, puis j'aimerais savoir comment que les émotions sont affectées par cette partie ou vice-versa.
Oui. Dans le fond, on a des études là, dans les dernières années. Certaines remontent, je pense, à 15-20 ans, mais dans le monde de la recherche en santé, c'est très récent. On a de plus en plus d'études qui soutiennent l'idée selon laquelle quand on ressent quelque chose, il y a une réactivité dans les muscles du plancher pelvien, dans d'autres endroits du corps aussi, mais entre autres là. Donc, ça peut être un petit peu, on pourrait, si on veut le simplifier un peu, le vulgariser, parce qu'évidemment, c'est très complexe, mais on pourrait le diviser en deux. Tout ce qui va nous amener à ressentir une certaine menace à notre intégrité physique ou mentale. Mm-hmm. Donc, si on se sent, si on a mal, on a peur d'être blessé, si on a peur de perdre notre travail, si on est en rupture amoureuse, puis on a une peine d'amour, si on a peur de pas arriver financièrement à la fin du mois, si on a peur d'avoir mal aux relations sexuelles, si on a peur d'avoir des fuites urinaires dans un contexte donné. Donc, bref, tout ça va amener une contraction des muscles du plancher pelvien.
OK.
Au contraire, si on ressent du plaisir, si on ressent un apaisement, si on se sent en confiance, puis qu'on se sent en sécurité, donc tout ce qui nous amène plus de ce côté-là du spectre, disons, va amener un... pas un relâchement au sens de « ça fonctionne plus », mais juste une détente des muscles du plancher pelvien. Puis, dans le fond, moi, ce que j'ai voulu faire avec mon livre, entre autres, c'est d'aller analyser tout cet aspect-là culturel qui a un impact sur la santé des femmes. Puis, je pense qu'on vit dans une époque et dans un monde où il y a tellement de choses qui nous amènent plus près de...
Ouais.
De la peur, de la menace, de l'insécurité, de la rapidité, tout ça, puis qui fait que nos muscles sont beaucoup plus sollicités à contracter, soit trop fort, trop longtemps, trop souvent, qui sont amenés à se détendre, qu'ils finissent par ne plus vraiment se détendre complètement. Donc, c'est comme si on gardait les poings fermés presque tout le temps ou la mâchoire fermée presque tout le temps, on finirait par développer un certain inconfort puis une certaine difficulté à faire des choses avec notre corps.
Puis ce qui peut amener aussi à des douleurs lors des relations sexuelles,
entre
que
autres,
j'ai compris.
Oui, okay. Entre autres.
OK. On a parlé de tabou, on dit que c'est encore tabou et tout, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire comme pour informer justement les jeunes femmes en devenir de leur plancher pelvien? C'est sûr que vous avez écrit un livre, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire sur ce sujet-là, mais qu'est-ce que vous auriez fait autrement pour que justement les jeunes filles savent, en tout cas reconnaître leur périnée?
Oui, bien je pense qu'il faut, en parler. Il faut ça passe à travers l'éducation. Il faut en parler entre amis, il faut en parler à l'intérieur de la famille, il faut en parler à la radio, il faut en parler... dans des cours d'éducation sexuelle. Puis au-delà de l'éducation sexuelle, on associe beaucoup l'éducation sexuelle à la sexualité, mais c'est tout notre rapport au monde puis aux autres, là, en fait, qui est dans la sexualité. Puis notre rapport au corps. Donc, ça se fait à l'enseignement, fait qu'au plus de niveaux possible. Là, puis dès l'enfance, là, jusqu'à un certain point, là, t'sais, nommer les parties du corps, normaliser la nudité, normaliser le fait de toucher, justement. C'est que t'sais, c'est pas juste correct de toucher à cette partie du corps-là. C'est sain, évidemment, quand c'est consensuel, puis dans le contexte approprié, mais ça va être sain là, pour développer un sain rapport avec son propre corps. Ouais. La majorité des femmes que je vois dans mon bureau veulent pas aller se toucher là. Ils vont trouver ça dégueulasse souvent, alors que tout est parfaitement normal. Il y a pas... la seule chose qui amène ce dédain-là, c'est la culture. Culture, c'est l'éducation qu'ils ont eue, soit à la maison ou dans la société de façon plus générale.
Oui. Puis, toi, Brigitte, en tant que professeure de yoga, est-ce que tu amènes certains concepts ou bien sujets par rapport justement à des parties du corps comme ça?
Ben oui, puis ben en fait, je pense que toute ma pratique puis mon enseignement, c'est de développer la conscience du corps, tu sais, de développer la proprioception puis la finalement, de pas juste reproduire un mouvement de manière mécanique, pas juste faire une posture pour faire une posture, mais de le ressentir dans le corps, puis d'apprendre à bouger avec la respiration. Fait que, tu sais, c'est une expérience qui devient très, très intime. Et je pense très touchante aussi, puis... ça peut se faire dans le rire, là, c'est pas nécessairement intense.
Non, tout à fait.
Il y a de la place pour beaucoup de rire, puis de, tu sais, de... Mais je trouve que c'est quelque chose qui... Tu sais, moi, j'ai eu un parcours où je suis passée par des longues études universitaires, donc quelque chose de très cérébral, puis pourtant, tu sais, ma mère était beaucoup dans son corps, tu sais, mais... J'étais tellement dans son corps, moi, j'ai eu peur de ma mère, puis j'ai eu peur de mon corps. puis ce qui était comme pour moi un peu plus sain, c'était de passer par le cérébral, tu sais. Puis ça m'a pris beaucoup d'années à défaire ça, puis à m'intéresser justement à tout mon corps, puis c'est comme un apprentissage. Je suis très, très reconnaissante de m'être donné ça, puis tu sais, mm-hmm. le yoga, souvent, ça peut être un peu, tu sais, il y a aussi des dérives, là, avec le yoga qui est maintenant quand même quelque chose de très répandu.
Oui.
Une source de revenus aussi, tu sais, mm-hmm. puis des fois beaucoup de pression là, pour tout ce qu'on appelle là, l'industrie du bien-être. Puis,
ouais.
tu sais, moi, je suis assez critique par rapport à ça, mais néanmoins, le yoga m'a vraiment apporté, tu sais, puis mm-hmm. c'est quelque chose qui évolue dans le temps, tu sais, dont tu changes avec ta pratique de mouvement, puis qui me permet de me connaître vraiment d'une manière intime, puis mm-hmm. de lire un petit peu les autres, tu sais, d'aller vers les autres, de transmettre, puis ça rebondit, là, tu sais, fait que c'est tellement précieux, mm-hmm. c'est riche, là, ça, tu sais, ça va un peu partout.
Ouais, ouais. Savoir, comme pour une femme qui nous écoute, c'est quand qu'il faut commencer à consulter? Donc, de dire, OK, j'ai un problème, il faudrait que je consulte. À quel moment?
c'est difficile à dire. Je pense qu'il faut d'abord vouloir.
Mm-hmm.
C'est pas un cheminement qui s'entame de reculons, là, si on se sent forcé d'aller consulter. Je pense pas que ça peut donner grand-chose, là, sincèrement. Ouais. Je pense qu'il... Il y a peut-être un cheminement qui a été fait de façon personnelle avant, mais mm-hmm. sinon, tu sais, des douleurs, des fuites urinaires ou de gaz ou de sel, là, des fuites, une sensation de pas être stable, d'avoir ces organes qui s'affaissent, si on n'est pas bien oui, dans notre ouais. corps, je dirais que... ça vaut la peine de chercher des solutions parce que souvent, il y a moyen d'être bien. Ça, mm-hmm. ça peut prendre du temps, ça peut prendre de l'effort. Malheureusement, ça prend des revenus
oui.
parce que... Puis ça, c'est une des raisons, je pense, pourquoi il faut en parler beaucoup. Je pense que ça devrait être un service qui est offert dans le système public.
Mm-hmm.
Présentement, ça
l'est pas.
Tout ce qui se passe... non, ça l'est... Okay. Ben, ça l'est... Il y a quelques physiothérapeutes périnéales qui travaillent dans le système public, mais très peu comparativement à la mm-hmm. demande, parce que même au privé, on est complètement submergé mm-hmm. de demandes. Puis tu sais, l'exemple que je donne tout le temps par rapport à ça, c'est quelqu'un qui s'en va jouer au parc ou qui tombe sur le trottoir ou peu importe, puis qui se fait mal, puis qui se fait une fracture, par exemple, qui se blesse. Bien, il va aller voir son médecin, il y a des chances de se faire référer en physiothérapie
oui.
dans le système public, puis mmh. d'avoir le droit, en général, à une dizaine de séances de physiothérapie payées par l'État.
Okay.
Mais une femme qui vit une grossesse, qui vit un accouchement, qui vit une déchirure possiblement de son périnée, mmh. qui subit une césarienne, qui est une très grosse chirurgie,
oui.
Une femme qui a des douleurs dans ses relations sexuelles ou un homme après une prostatectomie, par exemple, c'est toutes des choses
qui
sont pas...
il faut aller dans le privé, c'est ce que je comprends.
Oui, exact. Okay. Ouais. Fait que, c'est vraiment juste des personnes privilégiées qui peuvent se permettre ça. Fait que mm-hmm. c'est grandement problématique, bien je sûr. Pense, parce qu'évidemment, c'est pas que ces personnes-là qui sont mm-hmm. affectées par ces problèmes-là.
Oui. Puis c'est bien que ce que tu viens de mentionner, parce qu'on aurait pensé que le fait d'accoucher naturellement peut engendrer les problèmes de périnée, mais même lors d'un accouchement par césarienne,
oui.
c'est ce que je comprends.
Oui, oui. Les risques, là, par exemple, de fuite ou de douleur ou de descente d'organes ne sont pas exactement les mêmes mm-hmm. Quand on compare césarienne ou accouchement vaginal, mais sont présents dans les deux cas de façon assez, assez similaire. Il n'y a pas des ouais. grandes différences entre les deux.
Ouais.
Parce que dans le fond, il y a eu une grossesse.
Mm-hmm. Oui, c'est ça.
Et au-delà de la naissance, là, ouais. il y a eu 9 mois de grossesse qui a précédé t'as
fait.
Ça. Là.
T'as fait. Caroline, avant d'aller dans certains passages de ton livre que j'ai retenu, le fait d'écrire ce livre, ça a été comment? Pulsion, parce que après la formation, pourquoi avoir écrit ce livre-là?
Ça m'est vraiment venu, ça a vraiment été une envie viscérale ouais. qui m'est venue. Avec la pandémie, on a été arrêtés là, pendant quelques mois de travailler là, pour oui. le contexte pandémique. Puis quand on a été de retour au travail, comme dans plusieurs sphères, là, la pandémie avait comme mis en évidence beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrances et de problématiques. Puis mm-hmm. les clientes me revenaient avec des problématiques beaucoup plus complexes et beaucoup ouais. plus grandes. Puis c'est beaucoup, tu sais, mon métier de physiothérapeute périnéale, c'est beaucoup d'éducation. Je fais de l'éducation mm-hmm. plus que n'importe quoi d'autre. Puis là, dans le un à un, tu sais, à parler de ces choses-là, une personne à la fois, mm-hmm. à un moment donné, c'était comme, OK, mais là, j'y arriverai pas, là. Faut que tout le monde le sache. Faut mm-hmm. que je parle à plus qu'une personne en même ouais. temps. Puis de là, est venu l'envie d'écrire. Là, ça a tout le temps été un médium que j'aimais aussi. Ouais. Là, donc, c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Là.
Mm-hmm. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de livres qui parlent de ça dans le même sens que vous.
Non, je pense pas qu'il y en ouais. a beaucoup. Puis en fait, je pense que c'est le seul qui vient vraiment analyser ça de façon plus globale. Puis voilà. le rôle ouais. des émotions, de la société, du mm-hmm. contexte, de la culture, de quelle façon il y a tous ces liens-là qui sont importants à faire pour bien comprendre
ouais.
L'importance de cette prise de conscience-là mm-hmm. par rapport mm-hmm. à nos corps.
Alors, je parlais de passage dans ton livre. Donc, à la page 67, tu dis « Si fuir son corps à un coup, aller à sa rencontre de façon sincère et bienveillante est un investissement inestimable. Parce que la connaissance et surtout l'acceptation de son corps et de ses désirs sont des éléments centraux d'une sexualité épanouie. » Donc, explique-nous un peu cette partie du désir qui est en lien avec le périnée.
Mon Dieu, il y aurait tellement de choses à dire là-dessus. Mais je suis contente quand même que vous ayez choisi ce passage-là. Je pense que c'est vraiment important, cette déconnexion-là. C'est quelque chose à différents degrés puis qui se manifeste de différentes façons. Mais c'est quelque chose que j'observe chez toutes mes clientes.
Mm-hmm.
Puis que je pense qu'il est présent chez beaucoup de monde qui ne sont pas nécessairement mes clientes. Là. Puis qui concerne aussi beaucoup les femmes qui ont appris depuis toujours à être désirées
ouais.
et non à être désirantes.
Mm-hmm.
Donc, savoir ce qui nous fait envie, savoir ce qui nous fait du bien, c'est connaître qu'est-ce qu'on désire. Souvent, les femmes ne sont même pas vraiment capables de répondre mm-hmm. à ça. Puis là, évidemment, il y a des liens très concrets à faire avec l'activité musculaire, des muscles du plancher pelvien, puis après ça, des douleurs, puis de la satisfaction, du plaisir,
mm-hmm.
ou de la qualité de notre vie sexuelle, disons. Mais il faut apprendre à ressentir cette partie-là du corps pour ouais. savoir qu'est-ce qui lui fait du bien ou qu'est-ce qui lui fait pas du bien. Puis souvent, mm-hmm. C'est ça, la déconnexion est tellement réelle que les femmes le savent pas.
Mm-hmm.
Fait que ça commence par là, mm-hmm. avant de parler de renforcement, justement, là, ou de souplesse. Il faut prendre conscience de ça. Puis est-ce que me faire toucher comme ça, doucement, plus fort, plus vite, moins vite à cet endroit-là, à cet autre endroit-là, est-ce mm-hmm. que ça me fait du bien? Est-ce que ça m'amène à vouloir continuer d'aller vers ça, ou est-ce qu'au contraire, ça amène une certaine retenue
ouais.
Qui va être, qui sera pas juste une appréhension psychologique, ça va être une retenue très corporelle mm-hmm. aussi, là. Mm-hmm. Ça va, un va avec l'autre.
Oui, oui. Ouais.
Brigitte, est-ce que tu as quelque chose à dire? Voilà.
Mais là, c'est un peu mon sujet préféré.
Oui, yeah! Alors vas-y, je t'écoute.
Mais je trouve ça super intéressant parce que c'est... Puis je trouve que, dans le fond, tu sais, moi aussi, là, c'est vraiment un truc qui est arrivé tellement tard dans ma vie. Mm-hmm. Puis la façon dont on parle de sexualité aux jeunes... Puis là, j'ai comme aux femmes et aux hommes, mm-hmm. tu sais, dans le fond, parce que les hommes aussi, en tout cas, il y a tant à apprendre. Puis moi, mais tu sais, la façon dont tu sais, j'ai investi ma sexualité, je pense que c'est avec des connaissances tellement, tellement, tellement ouais. limitées mm-hmm. sur moi-même,
mm-hmm.
Sur les pratiques sexuelles, sur le plaisir, sur aussi ce que disait Caroline qui est tellement révolutionnaire, là, tu sais, être la femme désirée versus la femme désirante, c'est ouais. un pivot, là, dans psychologique, là.
Mm-hmm, ouais.
Puis moi, c'est vraiment autour de 40 ans, finalement, que j'ai investi mon corps pleinement,
ouais.
puis... toutes sortes de nouvelles pratiques avec curiosité, puis de mm-hmm. découvrir d'autres zones érogènes, puis qu'est-ce qui, moi, me fait vraiment plaisir, comment ouais. j'aime être touchée, puis mm-hmm. ne pas être touchée, tu sais, puis ce qui implique aussi une grande communication mm-hmm. avec l'autre, puis que l'autre soit ouvert à ça. Il y a beaucoup de maladresse, mais la maladresse, c'est correct, ça fait partie ouais, des ouais. jeux, quel qu'il soit, tu sais, il faut composer avec ça, mais... Ouais, ben je pense que les jeunes sont plus, tu sais, il y a des choses qui changent, puis mm-hmm. même moi sur Instagram, j'ai beaucoup de comptes d'éducation positive à la sexualité.
Ouais, ouais.
J'ai essayé d'inscrire mes enfants quand ils étaient plus jeunes, je pouvais prendre leur compte Instagram, mais là ils m'ont vraiment bloqué. J'essayais d'y mettre pour qu'ils aient accès à ça parce que je continue à beaucoup apprendre, ouais. tu sais, puis même gynécologique là, comment je suis faite moi-même en à effet. L'intérieur. Là, il y a tellement de points, mm-hmm. de zones, de façons de caresser. C'est riche, là, c'est ouais. grand. Ouais. Mais il faut tout d'abord... Il faut d'abord qu'il y ait un petit peu plus de confiance, un peu plus de langage, de communication, d'ouverture. Puis tantôt, juste, tu parlais d'être nu, là, le rapport au corps, là, mm-hmm. juste notre rapport au corps. On est quand même dans une société où c'est beaucoup plus valorisé d'être performant, d'aller... Puis après, arrivent des moments là, où on s'effondre. Puis là, on se rend compte que... OK, ben tu sais, ça s'effondre, peut-être je suis blessée, tu sais, mm-hmm. peut-être, mais il y a aussi des choses à l'intérieur de moi qui ont peut-être été négligées, puis ben c'est tout qu'un apprentissage à ouais. faire à rebours, là, tu sais.
Tout à fait, tout
puis,
à fait.
Tu sais, je le vois dans les cours, là, les gens, tu sais, même les pratiques autour de la respiration, puis ça respire juste ici, là, mm-hmm. dans le haut de la poitrine, puis là, tu sais, descendez, mais il y a très peu de mouvement. Dans le dos, il y a très ouais. peu de mouvement sur les côtés. Puis, tu sais, ça montre aussi que, tu sais, c'est des années peut-être à être dans un peu plus de restrictions, là, des voies respiratoires. Mm-hmm. Puis, mm-hmm. totalement lié aussi au stress, aux émotions, tu sais. Alors, ouais, mm. je me suis un peu perdue en chemin, là, entre le désir puis le stress.
C'est de très, très lié, quand
c'est
même.
C'est de très, très, oui, tout à fait.
Maintenant, Caroline et Brigitte, j'aimerais ça qu'on parle du vieillissement. Hein? Comment notre périnée vieillit? Quelles sont les conséquences? Donc,
Dans le fond, notre périnée fait partie de notre corps.
Ouais,
donc, il va vieillir comme le reste du corps. Il va évoluer au fil du temps. Il n'y a pas... c'est pas une question de avant ou après mmh. naissance nécessairement, même si ça peut amener certains changements, mais c'est une évolution là, qui se fait progressivement au fil du temps. Ce qui est difficile avec le vieillissement, Si on parle de santé des femmes, par exemple, c'est que il y a beaucoup d'idées négatives en lien avec ça. Donc, c'est beaucoup quelque chose qu'on travaille comme société à essayer de freiner ou de nier ou d'ignorer ou de contrer, alors que c'est inévitable. Mm-hmm. C'est pas quelque chose qu'on peut réellement freiner. On peut juste comme en masquer les effets ou les changements, puis ça va agir comme le reste, là, dans le fond, ce qu'on dit depuis le début, tout ce qui nous amène un sentiment que notre valeur, notre intégrité est menacée va amener des tensions dans le plancher pelvien. Donc, ce que je pense, c'est qu'en vieillissant, il y en a juste de plus en plus à cause de la façon dont les personnes vieillissantes sont perçues dans notre société. Hommes ou femmes, mais un peu plus les femmes, je pense, que les hommes. Donc, on va discréditer beaucoup les femmes vieillissantes. On les montre pas, on les voit pas, on les valorise pas. Donc, c'est difficile après ça, personnellement, de se dire, OK, ben, je perds en valeur parce que je vieillis. Alors que c'est complètement faux. C'est vraiment une question culturelle parce qu'il va y avoir d'autres cultures dans le monde qui vont avoir un regard complètement différent sur la femme vieillissante, qui vont la valoriser, qui vont même... parfois, les femmes ménopausées vont gagner en droit de parole et en valeur de leur opinion parce que on dit qu'elles ont atteint un certain degré de sagesse. Il y a des cultures qui vont parler d'un second printemps, donc ils vont vraiment voir la valeur plus transformative de la période autour de la ménopause. Donc, c'est possible, il y a moyen de voir ça pour ce que c'est. C'est une transformation. Il peut y avoir des moments difficiles à cette transformation-là. Il faut s'adapter à tout ce qui apporte une transformation dans la vie, mais c'est pas que négatif et c'est pas que dévalorisant, sauf que la société nous porte à croire ça. Puis si on revient au lien qu'on faisait plus tôt, ben si je me sens dévalorisée, menacée, tout ça, ben ça va amener de la retenue, de la tension dans mon corps. Puis là, ben ça peut contribuer à amplifier mes douleurs, à limiter mon mouvement. Puis en vieillissant, il y a aussi l'effet des années qui s'accumulent. Si j'ai travaillé si ça fait 40 ans que je travaille assise au lieu de 10, ben ça va paraître un peu plus aussi. Si ça fait 40 ans que j'accumule du stress, ça va paraître un peu plus aussi. Puis si ça fait 40 ans que j'ignore cette partie du corps-là, je m'éloigne de plus en plus de cette connexion-là qu'idéalement j'irais chercher.
Oui, oui. Puis Brigitte, en tant que prof de yoga, qu'est-ce que tu as...
Oui, bien en fait, en ce moment, je suis vraiment très, très touchée par, tu sais, des femmes autour de moi qui sont dans des... dans le passage, tu sais, que ce soit en périménopause ou ménopausée ou rendue de l'autre côté. Puis ça me touche énormément parce que je vois beaucoup de femmes, c'est comme une perte de contrôle. En fait, c'est des pertes.
Oui,
Puis ça, ça me fâche. Je trouve ça plate. Je trouve que c'est... Ça traduit aussi un certain regard qu'on porte très dur sur une femme, sur ce que devrait être une femme qu'on valorise dans notre société. Puis j'ai vraiment envie là, de les... Je sais pas, de les envelopper. Puis aussi, c'est qu'il y a aussi des choses qui sont... tu sais, on connaît peut-être pas tant là, la façon dont le système hormonal fonctionne, ses fonctions aussi. Puis là, tout d'un coup, ça s'en vient, ça s'en va dans tous les sens. C'est beaucoup de débalancement. Puis des douleurs chroniques dans le corps... dépression, changement au niveau de la sexualité, puis on reçoit ça de l'extérieur, puis frontal, tu sais. Alors que je pense, puis ça me fâche aussi parce que je trouve qu'il y a beaucoup de sentiment d'être démunie de la part de plusieurs femmes parce qu'il n'y a pas tant d'accompagnement. C'est vraiment dur. Il y a plein de femmes autour de moi, elles sont sans soutien médical ou leur médecin refuse d'aller vers, tu sais, que ce soit la prise d'hormones, puis il n'y a pas tant d'autres alternatives, ou bien prenez des antidépresseurs. Combien de femmes là, sortent avec une prescription d'antidépresseurs? Je dis pas que c'est bon ou mauvais, mais je dis juste qu'il y a un manque quand même. Puis la solution de certaines femmes qui peuvent se le permettre ou qui vont choisir, c'est qu'elles vont aller vers le privé.
Mm-hmm.
Et même si ça coûte une fortune, ouais. tu sais, donc ça, ça me fâche.
Mm-hmm.
Puis après, ben, elles vont être, tu sais, ça peut marcher, ça peut moins bien marcher, mais tu sais, dans tous les cas, je trouve qu'il y a quelque chose qui marche pas, tu sais, puis... ouais, mais c'est ça, puis ça revient aussi à, tu sais, tu parlais de sagesse, tu sais, de comprendre cette période-là, notre vie, il n'y a pas de miracle, là, on ne va pas y échapper,
non,
là,
non, comme femme, fait, là, non.
Mais c'est naturel, ouais. ça fait, puis ça nous amène vers un autre cycle de vie.
Ouais, tout à fait. On pourrait en parler tellement longtemps encore, puis je sais peut-être, Caroline, que tu avais encore quelque chose à dire, mais c'est tellement, alors, moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a encore tellement beaucoup d'informations, d'éducation à faire pour les femmes par rapport à ça. Et puis, ce que je peux dire, ben, c'est merci beaucoup, vraiment. Parce que en plus, ben c'est ça. Bon, moi, je suis sûre qu'on va mieux prendre soin de notre périnée. Hein, je pense que pour les auditrices aussi, puis les auditeurs, hein, parce que oui. c'est pas un problème seulement féminin. Alors, je rappelle que mes invités sont Caroline Arbour, physiothérapeute périnéale, autrice du livre « Habiter nos corps pour en finir avec la banalisation des douleurs des femmes » publié en 2023, et Brigitte Bayancourt, professeure de yoga. Mmh. Alors, c'est terminé. Merci, merci à toute l'équipe, Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique, et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
Merci beaucoup. Merci.